C'est à ce moment-ci de l'émission où on rejoint Olivier Beauregard pour parler sport. Olivier, bonjour!
Salut!
On commence en parlant de hockey et en parlant, j'ai goût de dire, encore une fois, de coups à la tête, parce que ça fait encore l'actualité cette semaine.
Oui, ça fait couler beaucoup d'encre, surtout au courant des 48 dernières heures. C'est en raison, en fait, du match entre le Canadien et les Rangers de New York au Centre Bell cette semaine. Il y a eu un événement sur la glace où le défenseur des Rangers, Jacob Trouba, est venu donner une bonne mise en échec là au défenseur du Canadien de Montréal, Barron. Donc là, on a eu comme un gros débat là-dessus qui fait la manchette un peu partout, surtout au Québec. Là, on sait quand ça touche le Canadien, ça prend pas de temps que ça déboule. Et c'est vraiment ça, là. L'impact pour les gens qui ont pas vu la séquence, c'est vraiment une mise en échec. Tout ce qu'il y a de plus légal sur un porteur de la rondelle. Mais là où le bas blesse, c'est que la collision a eu lieu et l'impact a eu lieu surtout à la tête de Barron. Et là, honnêtement, c'est malheureux parce que sur le jeu, sur la séquence, les officiels n'ont pas appelé de pénalité. Ils n'ont pas appelé de pénalité parce que c'est une mise en échec, comme je vous disais, légale avec quelqu'un qui transportait la rondelle. Il n'y a pas eu de saut, là, vraiment. Le Barron était dans une position fâcheuse, c'est-à-dire que il était en entrée de territoire, il était, si tu veux, la tête basse, là, comme on dit. Et quand l'impact est venu, ben c'est l'épaule qui est rentrée directement à la tête de Barron. Puis ceux qui ont vu les images, honnêtement, c'est pas beau à voir. Le Barron est perdu complètement sur la glace. Il sait pas où ce qui s'en va. Je pense pas qu'il se souvient de où est le banc des joueurs. C'est vraiment, vraiment malheureux. Alors, c'est une séquence qui est malheureuse, mais la raison pour laquelle je vous en parle, c'est surtout parce que ça a relancé le fameux débat. Est-ce que c'était une punition? Est-ce qu'on aurait dû appeler une punition à l'endroit de Jacob Trouba sur la patinoire? Parce que le point de contact a vraiment été à la tête de Barron. C'est là que le bas blesse, parce que quand tu lis les règlements de la Ligue nationale, là, honnêtement, il y a encore une zone grise au niveau des coups à la tête. T'sais, on veut enrayer les coups à la tête là, dans la Ligue nationale de hockey, et ça, c'est une mise en échec qui s'est faite directement à la tête. Évidemment, quand tu analyses la séquence, puis je comprends le travail des officiels, pardonnez-moi, ce qu'on dit sur la séquence, c'est que l'impact, oui, a été fait à la tête, mais ça a été une mise en échec. Tout ce qui est le plus légal, c'est la raison pour laquelle on n'a pas appelé justement de pénalité.
Moi, genre comme si c'était accidentel. Là. C'est pas voulu. Il voulait pas frapper la tête directement. Là. C'était pas ça son intention.
Exactement. Par contre, la Ligue nationale de hockey qui arrête pas de dire et arrête pas de se vanter dans les dernières années de vouloir justement enrayer les coups à la tête puis de vouloir prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des situations comme ça arrivent, décide de pas sévir. Et moi, c'est ça que je n'aime pas. Parce que si tu regardes dans les autres sports professionnels, tu peux regarder au niveau de, justement, la NFL, là, qui est probablement l'exemple à suivre au niveau des coups à la tête, tu sais, il n'y a pas de zone grise, Sébastien. Il y a un coup à la tête, que ce soit intentionnel ou pas, c'est directement une pénalité d'appeler sur le terrain, même que ça peut entraîner une fin de match pour un joueur, ça peut également entraîner une amende avec, justement, là, une somme importante à devoir à la Ligue, parce qu'on veut absolument bannir ça, ces coups-là. Et du côté de la Ligue nationale de hockey, on dit on veut faire la même chose, on veut emboîter le pas, on veut pas qu'il y ait de coups à la tête. Puis quand il y a une situation comme ça, non seulement on n'appelle pas une pénalité, mais on révise même pas la séquence par la suite. Trouba a fini la rencontre, il est obligé de jeter les gants contre Matheson. Matheson a donné un coup de poing dans le visage à un autre joueur. Lui, il a eu une pénalité. Ça a enchaîné les débats parce qu'on s'est dit c'est quoi la différence entre un coup de poing au visage puis un épaule dans le visage. C'est vraiment à la Ligue nationale de se regarder dans le miroir. La raison pour laquelle je t'en parle, c'est parce que c'est pas de savoir si c'est les officiels qui ont fait leur travail ou pas. Là. Sur la séquence, eux, ils ont établi le protocole puis le règlement de la Ligue nationale. Ils ont fait leur travail. Mais du côté de la Ligue nationale de hockey, dans une situation comme ça, quand tu veux pas que ça se répète, comment se fait-il qu'il y a encore des zones grises? Comment se fait-il qu'on n'est pas capable de dire ça, là, directement un coup à la tête, peu importe que ça soit intentionnel ou pas, on écope, le joueur est fautif dans tous les cas.
Puis ça ferait en sorte que les joueurs ne se mettraient pas dans des positions où peut-être que ça pourrait arriver que je le frappe à la tête, qu'il n'aurait juste pas fait cette mise en échec-là ou pas de cette façon-là, puis le jeu aurait continué, puis il n'y aurait pas eu de blessé. Ben,
exactement, puis tu aurais pensé deux fois, ben justement, comme tu le mentionnes. Tu sais, dans cette séquence-là, tu le vois là, que Trouba veut absolument le frapper puis lui faire mal. De là à lui viser la tête, ben je suis pas justement dans ses esprits. Là. Moi, je peux pas parler pour lui, puis je peux pas prévoir ses intentions. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que c'est une situation qui, si avait été sévie au niveau de la Ligue nationale, ben il aurait pensé deux fois avant de le faire. Et c'est pour ça que la Ligue nationale doit se pencher là-dessus, parce qu'elle perd vraiment des plumes au niveau de sa crédibilité quant à vouloir abolir les coups à la tête. comme je te dis, dans la NFL, il n'y a pas de zone grise. C'est, tu donnes un coup à la tête, c'est terminé. C'est pénalité sur le champ, puis je peux vous le dire, là, ça peut entraîner une expulsion, puis ça peut entraîner une amende en plus. On est vraiment sévère parce qu'on n'en veut pas. Du côté de la Ligue nationale, là, on le voit bien. Là. Comment se fait-il que deux coups similaires font en sorte qu'on juge ça différemment parce que c'est l'intention derrière? Mm-hmm. Quand tu décides de donner une pénalité sur l'intention, quand tu décides de sévir au niveau de l'intention, c'est là que c'est dangereux, Sébastien, parce que tu peux pas prévoir l'intention du joueur. Tu peux pas à 100% dire quelle était l'intention du joueur sur le jeu. Et là, la Ligue nationale, ben, a de l'air fou encore une fois. Elle a de l'air folle plutôt encore une fois. On a de l'air de pas savoir vraiment sur quel pied danser. On a de l'air de dire des beaux mots devant les médias puis devant les gens de la Ligue nationale en disant on veut enrayer ça, on veut protéger nos joueurs, quand finalement on se rend compte que les mesures qui sont appliquées sont pas les bonnes ou sont pas bien définies. À partir du moment où on va être sévère à cet endroit-là, je te le dis, ça va baisser drastiquement. Et présentement, ben c'est une lacune et c'est pour ça que ça a relancé les débats. Moi, ce qui m'énerve, c'est que le débat, c'est pas de savoir pourquoi que l'officiel a pas appelé la pénalité, je vous le dis. Le débat, c'est de savoir comment se fait-il qu'il y a autant de zones grises dans une situation comme celle-là. Ça devrait être banni sur le champ. On écope directement une fois qu'un coup à la tête est donné. Si on est capable d'établir ça puis de mettre ces bases-là dans la Ligue nationale, on va enrayer un jour les blessures et ben, les blessures à la tête surtout et les coups à la tête. Alors je pense que honnêtement là, la seule personne qui a se regarder dans le miroir, c'est pas Barron, c'est pas Trouba, c'est pas l'officiel qui était en service ce soir-là, c'est la Ligue nationale de hockey puis définir son règlement en disant savez-vous quoi, c'est fini les zones grises, c'est fini l'interprétation. Aujourd'hui, on sévit dès qu'il y a un coup à la tête, puis c'est à ce moment-là qu'on décide qu'on prend en charge justement ce fléau-là qu'on a encore dans la Ligue nationale de hockey. Mais tu sais, Sébastien, par contre, il y a un débat derrière ça. Il y a une raison pour laquelle la Ligue nationale veut faire attention, parce qu'il y a des joueurs dans la Ligue nationale là qui malheureusement ne seraient pas dans ce niveau-là s'ils n'étaient pas capables de donner des grosses mises en échec percutantes. Et si on décide de justement être plus sévère à cet endroit-là, ben il y a des gars là-dedans qui seront plus dans la Ligue nationale de hockey. Alors l'association des joueurs a son travail à faire aussi. On demande de protéger les joueurs, mais je peux t'assurer que c'est pas tout le monde qui veut que ça change, parce que si ça change, ça va changer drastiquement au niveau des joueurs qui évoluent dans cette ligue-là également. Alors, tu sais, c'est là que tu vois qu'il y a encore du travail à faire si on veut un jour vraiment éradier les coups à la tête dans la Ligue nationale de hockey.
Ben, ça ferait de la place pour des joueurs qui attendent leur tour aussi. Mais bon, on a.
Je suis d'accord avec toi, honnêtement. Très d'accord, je pense qu'on est rendu là. On essaie de justement diminuer, enrayer les bagarres, en tout cas dans les ligues inférieures, là, la Ligue nationale, pas vraiment. Mais si on veut montrer l'exemple, ben, faut commencer par la meilleure ligue au monde. Et je pense que c'est à eux de montrer et puis d'emboîter le pas.
Maintenant, parlons baseball, parce que ben, la Série mondiale, ça débute demain. J'ai l'impression qu'il y aura plusieurs téléspectateurs arrivés devant leur écran.
Hey, je vous l'ai dit souvent, en plus, sur nos ondes, là, je suis pas un grand amateur de baseball. Je regarde parce que j'ai un intérêt envers le sport, mais je peux te dire une chose, je suis pratiquement très excité pour cette Série mondiale-là. Écoute, d'un côté, c'est les Yankees, la East Coast, et de l'autre côté, c'est les Dodgers de Los Angeles, la West Coast. C'est vraiment David contre Goliath. C'est deux équipes qui se ressemblent au niveau de leur plafond salarial. Mm-hmm. Tu sais, c'est deux équipes qui dépensent 300 millions dans leur alignement. C'est une équipe qui compte sur des stars incroyables du monde du baseball. Tu sais, d'un côté, c'est Aaron Judge avec les Yankees. De l'autre côté, c'est Shohei Ohtani, qu'on connaît très bien, qui a signé un gros contrat lucratif avec les Dodgers de Los Angeles. Puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est un duel qui était très attendu. Écoute, ça fait longtemps, ça fait 40 ans qu'on n'a pas vu ces deux équipes-là s'affronter en Série mondiale depuis 1981. Alors, je pense que ça va être, honnêtement, les amateurs vont en avoir pour leur argent. Ça va être tout un combat. Je regardais un peu les prédictions. Les gens s'entendent pas pour dire qui va remporter justement cette Série mondiale-là. C'est ça qui va remporter.
Ben, c'est ça qui est le fun. C'est ça. C'est
ben quand... oui, on va être capable de pousser ça jusqu'au septième match. Écoute, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je pense que les amateurs vont en avoir pour leur argent, comme je te disais. Je te disais 40 ans, mais c'est 43 ans pour être exact, là. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent un peu la manière de faire dans le monde du baseball parce qu'on se dit, ben écoutez, c'est pas normal qu'au niveau du baseball majeur, ce soit les équipes les mieux nanties qui réussissent à se rendre en Série mondiale. Parce que c'est vrai, quand tu as des moyens financiers, tu es capable d'aller chercher les meilleurs joueurs. Tu sais, on le sait, il y a comme une inégalité entre les gros et les petits marchés dans le monde du baseball parce qu'il n'y a pas de plafond salarial. Par contre, je peux te dire une chose, quand ça fait plus de 40 ans que ces deux équipes-là se sont pas affrontées en Série mondiale, c'est l'argument tient plus ou moins. Là, je veux dire, ça fait longtemps que ces deux équipes-là se sont pas rencontrées.
Puis les deux ont pas mal de moyens. Fait que, oui, c'est sûr que là, oui, l'argument devient un peu boiteux, mais ça fait une finale intéressante.
Oui, absolument. Alors, on va voir. On sait que dans le cas de Shohei Ohtani, là, sa présence au Monticule demain est encore, si tu veux, incertaine. Mais ça, je pense que c'est du jeu de coulisses. Honnêtement, je vois pas comment les Dodgers ne vont pas lancer dans la mêlée Shohei Ohtani demain. Je pense que ça va être très intéressant. Ça va être un duel à suivre. Puis je m'attends, puis peut-être que je me trompe, parce que comme je vous dis, je suis plus un amateur qu'un spécialiste dans le domaine, mais je m'attends à une longue série, puis j'espère qu'on va avoir le droit à une longue série, parce que il n'y a rien de mieux que ça, une série mondiale où ça se rend en 7 et où tous les matchs sont compliqués et longs. Attendez-vous à des longues soirées. Si vous asseyez sur votre divan demain à 19h30, là, ça se pourrait que vous soyez encore là vers minuit, demi, 1h, là. Ça peut être long, mais ça va être très intéressant.
Bon, investis dans une bonne machine à café, les amateurs de baseball, pour la prochaine semaine et demie. Ça va être nécessaire. Sinon, ben, je ne vais pas faire de lien avec le premier sujet dont on parlait, mais il y a un peu de ça quand même. Dans le monde du football, on parle de commotion cérébrale. On parlait de coups à la tête tantôt, là, mais commotion cérébrale. Et là, ben, les yeux sont rivés vers les Dolphins parce que il y a un joueur qui a dit, qui est prêt à revenir malgré ses commotions, malgré les risques que ça peut, ça pourrait engendrer.
Engendrer, oui, absolument. Parce que du côté des Dolphins, vous le savez, vous connaissez tout le corps arrière qui était supposé de sauver la franchise, hein, Tua Tagovailoa. De son côté, Tua va revenir dans la mêlée. C'est ça qu'il veut. Il veut absolument revenir. Il est allé à l'entraînement cette semaine et il disait du côté des Dolphins, moi, je vais être de retour. Je veux lancer des ballons en fin de semaine. Mais écoutez, là, dans le cas de Tua, là, c'est pas compliqué. Là, c'est sa cinquième année, puis ça fait 5 ans qu'il est aux prises avec des coups et des coups à la tête, des commotions cérébrales qui l'ont affecté énormément. Lorsque c'est arrivé, rappelez-vous, contre les Bills de Buffalo le 12 septembre dernier, là, on pensait que sa carrière était terminée parce que la façon dont ça s'est fait, c'était pas un énorme coup à la tête, là, c'était un impact à la tête surtout. Et de son côté, ça s'est transformé en commotion cérébrale. Il a quitté la rencontre. Là, on s'est dit, faut que ce gars-là arrête de jouer au football. Éventuellement, c'est sa santé qui va payer pour. Et là, on écoute son point de presse cette semaine à Miami et on entend qu'il veut revenir. Il a même dit, puis là, je le cite, là, je suis prêt à mourir sur le terrain pour le sport que j'aime
pratiquer. Hey, voyons donc.
Honnêtement, Sébastien, là, je ne sais pas à quel point les Dolphins ou même du côté de la NFL, on peut intervenir parce que c'est épeurant de voir ça. C'est épeurant de voir un joueur pas réfléchir tellement longtemps et dire que le prochain coup à la tête, là, il n'a pas réfléchi, lui, que ça peut être fatal. Imaginez là, qu'il revient dans la mêlée en fin de semaine, c'est dimanche, lance un ballon, une mauvaise séquence, il retombe au combat, et là, le pire arrive, il se retrouve aux soins intensifs. Écoute, je veux même pas m'imaginer ça, mais c'est un scénario qui est plus que plausible, c'est un scénario qui risque d'arriver, parce que dans la NFL, même si on fait un gros travail pour protéger les corps arrière, même si on fait un gros travail pour enlever les coups à la tête, quand tu regardes comment Tua a subi sa dernière commotion cérébrale, tu te dis, écoute, ça peut être un impact minime au sol, qui va engendrer une autre commotion cérébrale dans son cas. Et si c'est le cas, ben là, ça va devenir une catastrophe pour la NFL. Ça va être une patate chaude à jongler. Alors, je sais que sa présence n'est pas certaine là, pour en fin de semaine, parce qu'il y a un protocole de commotion cérébrale à suivre encore du côté des Dolphins, du côté de la NFL. Mais honnêtement, j'aimerais ça une intervention, parce que si la Ligue n'intervient pas et qu'on le relance dans la mêlée et qu'une autre une autre situation du genre se déroule dans les prochaines semaines, honnêtement, ça pourrait être une catastrophe, puis ça pourrait être la question qu'on va se dire, Sébastien, c'est mais qui a décidé que c'était une bonne idée de le relancer là-dedans? Qui a décidé que c'était un bon moment pour remettre un gars comme lui sur le terrain? Honnêtement, je parlais avec des amateurs des Dolphins parce que j'en côtoie beaucoup et tout le monde est d'avis que même si c'est le corps arrière qui était supposé d'être prometteur puis relancer un peu les Dolphins, personne ne veut voir ça. Là. Personne ne veut voir une situation comme ça. Alors, tout le monde est inquiet. Malheureusement, on va regarder le match de dimanche pour savoir s'il va être lancé dans la mêlée. Puis s'il est lancé, je pense que tout le monde va se tenir les fesses serrées, comme on dit, à chaque fois qu'il va être sur le terrain. Je trouve ça vraiment, vraiment triste comme situation. Puis ça me porte à réfléchir. Est-ce que, éventuellement, dans la protection des joueurs, je comprends là, que ce sont des grandes personnes qui sont capables de prendre leurs propres décisions. Mais quand ça se passe sur un terrain qui appartient à une ligue, un terrain qui est dans une ligue organisée, là, à un moment donné, il faut que tu aies ton droit de regard et ton droit de veto sur des situations comme ça pour éviter que des situations dramatiques arrivent. En tout cas, on verra. Je le souhaite pas, mais honnêtement, là, je retiens mon souffle pour lui si jamais il ressorte sur un terrain de NFL.
Puis surtout, c'est parce que ça va impliquer un ou d'autres joueurs. T'sais, c'est ça aussi, s'il arrive quelque chose, il y a quelqu'un qui l'aurait frappe, plaqué là. Normalement. T'sais, je veux dire, comme un plaquage de football, mais qui cause quelque chose, là, lui doit vivre avec le poids des conséquences de ça. Là.
Écoute, c'est exactement ça, parce que la séquence là, contre les Bills là, le 12 septembre dernier, quand Hamlin l'a frappé, là, c'est l'impact au sol, c'est pas un impact à la tête, c'est l'impact au sol qui a fait en sorte qu'il a subi une autre commotion cérébrale. C'est pour vous dire la fragilité là, de sa tête à l'heure actuelle. Là. Puis c'est pas vrai que ce gars-là, après avoir passé plusieurs protocoles de commotion cérébrale, on a décidé de le relancer dans la mêlée. C'est pas vrai que ce gars-là, cette fois-ci, sera la bonne. Là. Je veux dire, ça peut que être pire.
Ah oui.
Parce que on pourrait en parler longtemps, mais tu parles à des spécialistes de commotion cérébrale, ils vont tous te dire la même chose. À partir du moment où ça devient récurrent, les commotions cérébrales, t'es sujet à en faire beaucoup plus facilement puis beaucoup plus fréquemment, peu importe l'impact. Alors honnêtement, Sébastien, c'est une mauvaise décision. Si lui décide de retourner sur le terrain puis de vivre ça, j'espère qu'il n'y aura pas de situation dramatique parce que ça serait une catastrophe pour l'organisation des Dolphins, mais aussi pour la NFL.
J'espère qu'on n'aura pas besoin de s'en reparler. Olivier Beauregard, merci pour ton temps cet après-midi puis à la semaine prochaine.
Merci, bye-bye.